divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Guy Bruy.
Bonjour, nous recevons aujourd'hui pour l'émission d'Union rationaliste Rachel Mazui, qui est historienne, chercheuse ou chercheureux, associée à l'IHTP, et qui a travaillé sur les années 30 et plus particulièrement qui a fait sa thèse, je crois, sur les voyages de voyageurs français en Russie, en Union soviétique, et sur les échanges entre la France et l'Union soviétique. Voilà. Elle est membre du comité de directeur ou de rédaction de l'association des amis de Jean-Richard Bloch, l'association des études Jean-Richard Bloch pour être précis. Et cette association, qui est très vaillante et qui travaille beaucoup pour faire connaître la personnalité et l'œuvre de Jean-Richard Bloch, connaît malheureusement, comme beaucoup d'autres associations de ce type, des difficultés. Alors, vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots.
Alors, ce n'est pas des difficultés spécifiquement financières, c'est plutôt des difficultés humaines. C'est-à-dire qu'on a tout simplement du mal à assurer le travail quotidien qui repose sur quelques personnes. C'est la difficulté d'assurer la suivi d'une petite association tournée autour d'un écrivain, d'autant plus qu'il est, on peut le dire, relativement méconnu. Voilà, aussi bien pour les littéraires que pour les historiens, alors que, en tout cas, en tant qu'historienne, je trouve qu'il est d'un intérêt tout à fait notable, et je suis ravie de pouvoir en parler avec vous aujourd'hui.
Alors, cette méconnaissance relative, à quoi l'attribuez-vous ?
Alors, d'abord, il faut dire que si on prend les années 30 ou la fin des années 20, Jean-Richard Bloch, c'est un auteur qui est reconnu. Il est publié à la NRF, donc chez Gallimard, même s'il ne fait pas partie du Sérail, ne serait-ce que d'un point de vue générationnel. Et c'est un intellectuel engagé de premier plan. En 32, il frôle le Goncourt avec son roman Sibylla, par exemple, pour vous donner que cet exemple-là. S'il est oublié par la suite, il meurt en mars 1947, d'accord. C'est à mon sens du fait de deux raisons principales. La première, que j'approfondirai pas parce que je suis pas littéraire, je suis pas spécialiste du sujet, ça tient dans une écriture qui est enracinée dans son siècle. Est-ce qu'il y a beaucoup d'écrivains des années 1900-1920 qui sont encore beaucoup lus et édités aujourd'hui? Je crois que la réponse est non. Et puis je m'en sortirai par une pirouette. Si on prend quelqu'un comme Barbus par exemple, en dehors du feu, qu'est-ce qu'on a lu de Barbus? Certainement pas son Staline. Voilà. En allant un tout petit peu plus loin de ce côté-là, Michel Trébiche dit bien que chez lui, ses personnages sont toujours associés à une idée. Et donc, ça rend son écriture, même à son époque, c'est une critique qu'on lui fait même dans les années 20 et 30, parfois un petit peu complexe. La deuxième raison, c'est que la postérité de Jean-Richard Bloch, elle a été longtemps portée essentiellement par les communistes qui lui ont construit au sortir de la guerre, donc à sa mort, une sorte de mausolée. C'est un écrivain qu'on a associé à ses interventions sur Radio Moscou pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il s'est exilé en URSS au printemps 1941 et qu'il ne revient en France qu'au début de l'année 45, et à son ouvrage posthume, pour aller très vite, qui s'appelle « Staline, l'homme du communisme », qui date de 1949, qui, comme son titre l'indique, est un éloge à Staline et à l'URSS, en plein moment de la guerre froide. Voilà, ça reprend le même éloge, une allocution qu'il avait faite en 1946 à l'association France-URSS qui venait de naître. Donc ça fiche son image sur la figure d'un intellectuel stalinien, surtout qu'il meurt en 1947 et qu'il n'a donc pas pu suivre le cours de l'histoire. Et on oublie l'écrivain, son œuvre littéraire, qui est très large. Il aborde pratiquement tous les genres. Il va publier des contes, des nouvelles fantastiques, il va publier des romans. Il a même écrit les textes de partitions musicales, du théâtre aussi beaucoup, de la poésie. Enfin bon, j'en passe. Donc c'est une œuvre qui est essentiellement, d'un point de vue littéraire, écrite avant 1933. après 1933, il n'y a plus de romans achevés chez Jean-Richard Bloch, même s'il continue à écrire, et l'engagement est de plus en plus prégnant. Voilà. Et ça passe, ce qui fait qu'on oublie l'œuvre littéraire et on oublie le parcours d'un intellectuel qui part du mouvement socialiste. Il y a un basculement dans une naissance d'une conscience politique au moment de l'affaire Dreyfus. Et donc, c'est un intellectuel du mouvement socialiste avant 1914. Autour, on en reparlera un tout petit peu peut-être d'une revue, de deux revues qui s'appellent L'Effort et l'Effort libre, où il essaye de réunir une avant-garde littéraire, mais aussi une avant-garde révolutionnaire, donc des syndicalistes, des anarchistes, etc., et des hommes de plume. Et ensuite, jusqu'en 1933-1934, c'est un parcours d'intellectuel critique dans le mouvement socialiste, mais qui s'intéresse aussi beaucoup sur la question juive, sur le judaïsme, avec un parcours du côté du sionisme entre 1924 et la fin des années 20. Et quand on arrive aux années 30, cette pensée critique va effectivement, avec la montée du nazisme, se transformer en une réflexion centrale autour de l'antifascisme qui va en faire un compagnon de route officiellement à partir de 1934. Voilà. Et il n'adhère au PC finalement que très tard, puisque on le sait à travers la publication des carnets de Romain, du journal de Vézelay de Romain Rolland, ce n'est qu'au début du mois de juillet 1939 qu'il a adhéré au Parti communiste. Et donc c'est quelques années d'intellectuels du parti pour des décennies d'intellectuels beaucoup plus critiques et beaucoup plus tourmentés aussi, je crois.
En adhérant au Parti communiste, justement, à une curieuse époque.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il adhère quelques jours, quelques semaines, on ne connaît pas la date exacte, avant le pacte germano-soviétique. Et je crois qu'on le sait par le témoignage de ses enfants et puis par sa correspondance, qu'il a été bouleversé, comme beaucoup de communistes à l'époque, par le pacte. Mais il ne va pas effectivement le condamner. Et je crois que son adhésion est trop tardive pour qu'il puisse revenir en arrière. Et il se met du côté de nous, qui sommes emprisonnés ou en tout cas rejetés, puisqu'il est à l'époque directeur, co-directeur avec Aragon du journal communiste Ce Soir depuis 1937. Le journal est interdit comme tous les autres journaux communistes en septembre 1939. Et donc il ne peut pas se désolidariser, à mon avis, à ce moment-là. Mais c'est une adhésion effectivement très très tardive.
Oui, alors sur cette question de son adhésion au Parti communiste et de ce qu'elle a représenté dans ce qu'il a pu écrire et dire, notamment à propos de Staline, nous reviendrons peut-être à l'occasion de la dernière question que j'ai préparée, si nous y arrivons. Oui, du point de vue littéraire, moi je recommande toujours vivement la lecture de ce roman, qui me paraît un roman très important, d'un point de vue ethno, tout ce que vous voudrez, et littéraire, qui s'appelle « Et compagnie ». Qui est quelque chose qu'il faut lire et connaître. Mais malheureusement, je crois qu'il n'est pas très connu. Bien, alors, le dernier numéro des cahiers Jean-Richard Bloch s'intitule « Intellectuel au pluriel et homme de revue ». Et en effet, c'est une question extrêmement importante parce que Jean-Richard Bloch est un homme de revue, un homme de ce genre qui apparaît, qu'on appelle l'essai.
Tout à fait. Alors, homme de revue d'abord, essai ensuite. Je crois que chronologiquement, il faut en passer par là. Alors, l'homme de revue, c'est effectivement un homme qui va nourrir l'une de ses multiples petites revues d'avant-garde dans la mouvance du socialisme d'avant 14, autour de deux titres qui prennent l'un la suite de l'autre, qui s'appellent L'Effort et l'Effort libre. Alors, si on regarde le nombre de lecteurs, on est... Évidemment, c'est quelques centaines, c'est rien, mais si on regarde le nombre de correspondants, on a plus de 90 intellectuels dans cette mouvance, qu'ils soient plus des militants que des littéraires, qui gravitent autour de Jean-Richard Bloch. Et de façon intéressante aussi, ça part de Poitiers, parce qu'à ce moment-là, Jean-Richard Bloch s'est enraciné dans la région poitevine. Il a acheté une maison avant la guerre, une maison qui continue d'exister aujourd'hui.
La Mérigotte.
Voilà, la Mérigotte, dans la périphérie de Poitiers. Et donc, c'est une position aussi très d'arrogance provinciale par rapport à Paris, en montrant qu'il y a une existence intellectuelle en hors de Paris, avec vraiment l'idée de mêler le littéraire et l'avant-garde révolutionnaire. Voilà. Je crois que surtout à partir de 1913, c'est très réel, même si à 70% les textes sont littéraires. Et puis après la guerre, il faudrait revenir sur son parcours pendant la guerre, parce que c'est assez intéressant. Il fait partie de ces socialistes qui ne sont pas pacifistes, il fait partie de ces socialistes, c'est plutôt la levée en masse, Valmy, la défense de la démocratie, des droits de l'homme, donc une sorte de mystique révolutionnaire qui fait qu'il va jusqu'au bout faire son devoir, même si à la fin il y a une inversion qui se produit, et on le retrouve dans l'un de ses... son essai le plus célèbre, Destin du siècle, il y a cette idée que il y a ce sentiment de duperie qui se fait jour, mais toujours est-il qu'effectivement il est blessé pendant la guerre, il obtient même la Légion d'honneur au sortir de la guerre, si je fais pas d'erreur, et au sortir de la guerre, on trouve un homme qui se questionne énormément et qui va forcément être fasciné par la révolution russe, comme beaucoup d'autres, mais c'est une fascination qui passe plus, là, cette fois-ci, par une mystique de la Révolution que par la Révolution russe elle-même. Et il va s'en dégager et s'intégrer dans une mouvance qui est celle de Romain Rolland, sans qu'il soit complètement rolandiste, même s'il a côtoyé Rolland, qui à ce moment-là n'est pas un partisan de la Révolution russe parce qu'il répugne à cette violence révolutionnaire. Il est très présent dès le départ donc, dans la revue fondée par Rolland en 1923, qui est Europe. Il y a plus de 700 articles de bloc dans Europe. Mais on le retrouve aussi, c'est pour ça qu'on voit qu'il est en permanence en train de se questionner, dans Clarté, le mouvement dirigé par Barbus, qui est lui beaucoup plus proche des bolcheviks russe de l'époque, même si les relations sont complexes aussi de ce côté-là. Donc on le voit chez Europe, et Europe, c'est cet humanisme internationaliste qui est l'une de ses aspirations. On le voit comme un chaînon entre deux générations, la génération de Rolland et la génération des plus jeunes. Il est né en 1884, Jean-Richard Bloch. Et dans la foulée, dans les années 30, là par contre, on va le voir dans toutes les revues de la gauche de Front Populaire. Alors de plus en plus, ça va être des revues dans la mouvance communiste, mais Europe jusqu'au bout, et puis aussi Commune, mais aussi Marianne, la revue d'Emmanuel Berle, mais aussi Regard, mais aussi donc à partir de 37, là, il passe des revues à un journal, puisqu'il devient co-directeur de Ce Soir. Et ça va s'articuler autour, effectivement, de l'écriture d'essais politiques. Le plus connu d'entre eux est publié en 1931. Il s'appelle Destin du siècle. Et c'est finalement une collection d'articles parus dans Europe jusqu'en 1930 qui sont réunis par Jean-Richard Bloch, où, et là je reprends un petit peu les propos de Michel Trébiche, qui a assuré la préface de sa réédition.
Pour les PUF, hein, c'est publié au PUF
en 1996.
Cadrige.
Donc c'est à la fois un témoignage de l'intellectuel de l'affaire Dreyfus, naissance de sa conscience politique, on va dire, au seuil des années 30. C'est aussi une sorte de prémonition des cataclysmes à venir. Hein. Il y a une très grande lucidité chez Jean-Richard Bloch, qui est un germanophone, qui est lié assez fortement à son traducteur, qui est autrichien. Donc il y a une prise de conscience du nazisme très rapide et très, très forte. C'est aussi une réflexion sur les discours possibles de l'après-14, hein, sur le wilsonisme, par exemple, et sur le désenchantement par rapport au wilsonisme ou sur le marxisme, et enfin sur la fonction de l'intellectuel qui est chez lui perçue comme une fonction critique. Alors il y a d'autres essais qui vont émailler les années suivantes qui sont davantage liés à son engagement dans l'action, cette fois-ci politique, même si dans son écriture il n'y a jamais une distinction entre l'esthétique d'un côté et la réflexion politique. Hein, c'est peut-être aussi ce qui en fait la difficulté d'ailleurs et qui fait que il se sent un petit peu incompris.
J'avais envie de vous poser une question sur son rapport au judaïsme.
Alors là-dessus...
Et je voudrais vous poser une question parce que ça va m'être l'occasion de vous offrir ce numéro de Raison Présente qui contient un remarquable article de Michael Levy. Je me suis demandé, à travers ces enthousiasmes de Jean-Richard Bloch pour Wilson, puis pour les débuts de la révolution soviétique, etc., et puis à la fin, pour Staline, s'il n'y avait pas une dimension un peu mystique ou utopique, et si vous ne le situeriez pas d'une manière ou d'une autre dans la continuité de penseurs comme Ernst Bloch ou Walter Benjamin.
Je vais commencer par le judaïsme, même si là je ne suis vraiment pas la plus spécialiste là-dessus. Là encore, on voit bien qu'on a un intellectuel qui n'a pas qu'une facette, parce que il n'y avait pas de pratique religieuse chez Jean Gerbloc. C'est vraiment une famille juive de la bourgeoisie française assimilée. Son père était un polytechnicien, ingénieur des chemins de fer. En même temps, il y a une vraie réflexion sur ce que c'est que le judaïsme et ce qu'il peut apporter en dehors même de la condition d'être juif. Alors, il y a une réflexion avec l'affaire Dreyfus sur l'altérité, très clairement, mais ça va plus loin dans les années 20, puisqu'il voit le sionisme comme une nouvelle forme de messianisme, mais qui serait une solution qui serait adaptable à d'autres personnes que aux juifs vivant en France. En tout cas, ça va au-delà de son propre cas. Donc, on voit bien que c'est complexe. Et c'est abandonné en 29, au moment des troubles en Palestine, qui fait qu'il va un petit peu rompre. Il va rompre aussi, je pense, parce qu'il s'engage dans le communisme. Et effectivement, il y a une mystique qui va en remplacer une autre.
Qu'il n'était pas mystique.
Sauf qu'il n'est pas complètement mystique. Il y a effectivement cette idée d'une révolution qu'on retrouve dans son socialisme, avec l'influence de la Révolution française, y compris dans son engagement dans la guerre, dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais le mysticisme, d'abord, ça se termine par une action qui est politique et engagée, qui est au concret. Et on le voit même dans la rédaction de ces articles, de ces essais. Ça part toujours de cas très concrets, même s'il veut se dégager du jeu pour parler à un collectif. Donc mystique, oui.
Allez-y. Nous en reparlerons, parce que je crois que nous devrons vous inviter pour une autre émission, étant donné que nous n'avons pas dit le quart de ce que vous vouliez dire. Donc il faudra notamment revenir sur son changement d'orientation politique à partir, disons, de 33-34, son séjour en URSS et son fameux éloge de Staline. Rachel Mazui, nous vous remercions donc vivement. Nous vous disons à bientôt.
Vous pouvez retrouver le lien de l'association Jean-Richard Bloch sur le site de l'Union Rationaliste. Nous vous disons au mois prochain.